L'interview santé par Jessica Falour.
Bon pour la santé comme pour le moral, le sport pratiqué en excès et sans limite peut devenir une vraie addiction. On appelle ça la bigorexie. C'est une vraie pathologie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Comment la repérer? Comment la soigner? On va voir ça avec vous, Aymeric Petit. Bonjour.
Bonjour.
Puisque vous êtes médecin, psychiatre et addictologue. Alors, à partir de quel moment peut-on dire que l'on est addict au sport?
À partir du moment où on a perdu le contrôle par rapport à ce comportement, où l'on se sent obligé de poursuivre l'entraînement, de retourner à l'entraînement, en dépit d'une impossibilité, si vous avez un rendez-vous professionnel, si vous êtes blessé. Donc c'est vraiment répéter un comportement, ne plus pouvoir s'en passer, alors que les conséquences négatives sont déjà présentes.
Comment on peut repérer une possible future addiction? C'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, qu'on soit complètement dedans, est-ce qu'il y a des signes d'alerte?
Alors il y a plusieurs signes d'alerte, notamment la durée de l'entraînement. Lorsque vous assistez à un allongement progressif de la durée d'entraînement, ça peut alerter. L'apparition des premières blessures, des personnes qui, lorsqu'elles doivent arrêter de s'entraîner, commencent à être irritables, commencent à être un petit peu déprimées, ça peut être les premiers signes d'alerte.
Comment s'explique l'addiction au sport? Est-ce que la sécrétion d'endorphines qui déclenche l'ivresse du sportif y est pour quelque chose?
Alors oui, on pense que ce phénomène est sous-tendu par un phénomène neurobiologique, c'est la sécrétion, on va dire, de l'hormone de plaisir qui est la bêta-endorphine que vous sécrétez lors d'un effort. Et cette bêta-endorphine, elle va aller stimuler les zones de plaisir au niveau du cerveau. Donc là, vous rencontrez donc un comportement qui procure du plaisir et l'objectif de la personne, c'est de renouveler ce comportement pour à nouveau éprouver ce même degré de plaisir.
Quels sont les risques et les dommages au quotidien, dommages physiques, psychologiques?
Alors en ce qui concerne les risques physiques, on peut retrouver donc des lésions tendineuses, des tendinites, des fractures de fatigue. On retrouve également des complications psychologiques comme la dépression qui peut survenir lorsque vous ne pouvez pas vous entraîner et d'authentiques troubles anxieux à l'arrêt du comportement. On retrouve également d'autres types de complications, plus de l'ordre, on va dire, socio-familial avec parfois des changements de conjoint. Puisqu'il y a une telle réorganisation du mode de vie sur le plan de la nourriture, des loisirs, que parfois les personnes sont même amenées à divorcer et à changer de conjoint.
Alors est-ce que vous pourriez nous dresser un profil type, entre guillemets, qui est concerné par la bigorexie? Plutôt des femmes?
Alors oui, ce sont plutôt des femmes. Les études rapportent un sex ratio de 2 femmes pour un homme. Qu'il est difficile de donner un chiffre, une estimation de prévalence. Qu'en revanche, le sport amateur ou le sport professionnel peut être touché de manière à peu près égale, qu'il n'y a pas d'activité sportive vraiment pathognomonique, c'est-à-dire que tous les sports peuvent être touchés, mais d'une certaine manière, on va dire que les sports individuels sont plus touchés que les sports collectifs, et c'est surtout la course à pied, la musculation, le fitness et le vélo qui sont les sports les plus retrouvés. C'est la personne qui va, courir énormément, s'astreindre à des régimes, c'est ça, c'est pas la partie de tennis entre copains le dimanche matin.
Beaucoup de femmes aussi parce qu'elles veulent maigrir peut-être?
Alors oui, alors ça il convient d'être assez prudent, c'est de voir s'il n'y a pas un trouble anorexique associé, puisque justement l'addiction au sport est souvent secondaire à une anorexie, alors que chez l'homme elle est quasiment toujours primaire.
En quoi consiste le traitement de cette addiction en particulier?
Alors ce traitement utilise des techniques de psychothérapie autour de l'entretien motivationnel pour aider le malade à changer, des techniques ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives pour voir toutes les croyances qu'ils peuvent avoir autour du sport. Et également une psychothérapie de soutien, puisque c'est des malades quand même qui souffrent, qui sont dans une grande souffrance psychique, et donc c'est les aider à d'abord diminuer ce comportement, à l'arrêter, puis à maintenir l'abstinence.
Et à réaliser aussi, parce que là aussi ils sont souvent dans le déni, donc
exactement.
Le gros du boulot c'est de leur dire que ça existe, hein, et de leur faire prendre conscience
Faire prendre conscience de la maladie, passer du « il faut que j'arrête de faire du sport » à « je n'ai plus envie de faire du sport de cette manière » et quelque part retrouver une relation apaisé vis-à-vis du sport, puisque là on est plus du tout dans le plaisir, on est véritablement la contrainte, l'asservissement par le miroir, et c'est la contrainte par le sport.
Et faire du sport de manière raisonnable, ça correspond à quoi? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine?
On peut dire oui, faire une activité 2 fois par semaine, c'est très très bien.
Merci beaucoup docteur Aymeric Petit, je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue, également l'un des auteurs du livre Le Soleil dans la peau, consacré à l'addiction au bronzage aux éditions Robert Laffont. Et on en parlera d'ailleurs des addictions au bronzage, également addiction achat compulsif, hein, parce que ça touche beaucoup de femmes et beaucoup de trentenaires.
Avec plaisir.
À très vite, merci.
Merci.
La santé sur tout.com.